tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonsoir tout le monde.
Et de Marren.
Bonjour à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera des saloperies d'Activision, on enchaînera ensuite sur Darksiders 3, on évoquera le nouveau jeu Harry Potter, on parlera encore une fois de Telltale, suivi du dossier, n'est-ce pas? Nous enchaînerons ensuite sur l'auteur des romans Witcher qui a décidé qu'il avait besoin d'argent, et enfin, on terminera sur Reggie Fils-Aimé. It's not a bug, it's a feature, n'est-ce pas? Vous allez voir, il a des arguments imparables pour le mode en ligne de la Switch. Et enfin, le jeu du moment, et oui, parce qu'il y en a un cette semaine, c'est un jeu auquel j'ai joué très longuement, ça s'appelle Warframe, j'y ai joué plus de 200 heures, et je vais vous en parler. Voilà, c'est parti, on va commencer donc avec Activision, ces petits bâtards d'Activision. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Eh bien, cette semaine, ils se sont dit, alors, on va bientôt sortir Soldier of Fortune sur GOG. Oh, super, putain, Activision qui sort déjà en DRM Free, bravo Activision. Et ouais, non, parce que évidemment, hein, ils pouvaient pas être aussi sympas sans qu'il y ait une couillonne derrière. Ils se sont dit, alors du coup, vous voyez ce mode-là qui est sorti depuis 14 ans et qui corrigeait une faille critique sur les serveurs de jeux en ligne? On va envoyer une lettre à son auteur pour qu'il le retire, hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. Hein. Il faudrait pas que les anciens joueurs de Soldier of Fortune puissent toujours jouer à leur vieille copie. Il faut absolument qu'ils achètent le jeu sur GOG.
Ça va aller, Tyron, ça va aller.
Non, mais... non, mais... Alors déjà, hein, le mode, il existe depuis 14 ans. Hein, pourquoi vous êtes pas réveillé plus tôt? Et surtout, c'est un mode qui corrige des failles critiques. Je veux dire, les mecs, ça fait longtemps qu'ils ont le mode. Hein. Ils vont pas acheter la version GOG juste parce que vous allez retirer le mode d'un site qui, de toute façon, je veux dire, a été dupliqué et disponible partout sur Internet. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'être débiles mentaux. Putain, mais c'est pas possible d'être aussi con, quoi.
Ce qui est d'autant plus dommageable, c'est que ce mode... Il permet d'éviter des problèmes matériels, des problèmes de sécurité.
Des problèmes qui n'ont jamais été corrigés par Activision, précisons-le.
Exactement.
Quand même.
Exactement, donc c'est quand même un mode qui est d'utilité publique. C'est-à-dire oui. Que c'est le 1, le 2 et le 3 qui sont sortis sur GOG là, cette semaine, et ils se sont pas dit « Non, tiens, on va peut-être régler ça. Non, t'inquiète, c'est... on va peut-être prendre le cash tout de suite, mais c'est bien de prendre le cash, mais derrière, empêche pas les gens de fixer ton jeu, quoi. » Quitte à faire l'autruche, au moins laisse les gens faire en sorte que ton jeu, ça soit pas juste un nid à virus, quoi.
Bon, allez, on va passer à la suite, et on va maintenant évoquer Darksiders 3. Alors, il y a du gameplay qui est sorti récemment, un gameplay contre un boss. Alors, je sais pas pour vous, personnellement, autant la partie gameplay, bon, je suis toujours, comment dire, mitigé. Il y a du mieux, mais je suis toujours assez dubitatif, on va dire. Par contre, j'ai adoré toute la partie dialogue, c'est-à-dire que c'est un gameplay contre un des boss qui est donc le péché capital de la paresse. Et là, t'as un dialogue que moi je trouve absolument succulent, où il y a deux doigts de convaincre le personnage principal de « Putain, mais c'est l'apocalypse, qu'est-ce que tu viens me faire chier ?» à essayer de me buter, alors que de toute façon, on va tous crever, hein. Pourquoi est-ce que tu viens m'emmerder comme ça, hein? Allez, vas-y, assieds-toi, détends-toi un peu. De toute façon, ce que tu fais, ça sert à rien, hein. Au limite, tu vois, autant la partie boss, oui, pourquoi pas. Autant, si c'est aussi bien écrit tout le jeu, je suis client. Voilà.
Ouais, mais après, il faudra voir si, les autres personnages auront le même droit au même traitement, niveau écriture. Parce que là, c'était la paresse, donc c'était quand même quelque chose d'assez simple à écrire. Enfin, comme tu l'as dit, le dialogue, c'est l'apocalypse, donc viens pas me casser les couilles, quoi. Après, ça serait bien que, tu vois, par exemple, pour chaque péché capitaux, chacun a son petit truc à lui pour que le boss soit marquant par sa personnalité. Mais surtout, moi, enfin, Darksiders, c'est une licence qui m'a énormément déçu parce que je l'avais attendu le premier avec impatience. Je me suis dit que c'était sympa de jouer les cavaliers de l'apocalypse dans un monde moderne et en ruine. Le jeu était très intéressant. Mais c'est des manettes en main que le jeu m'est tombé, quoi. Enfin, le personnage a une inertie assez, on va dire, particulière. Mais surtout, j'ai essayé de redonner sa chance, là, à Darksiders 2, parce que je l'avais pas fait. Et du coup, je l'ai fait sur le PS Plus, qui est, comme il était donné gratuitement. Donc, je me suis dit, bon, je lui redonne sa chance. J'ai fini, je pense, le tuto, puis le premier boss. Je suis plus jamais retourné, quoi. C'est-à-dire que je trouve le truc tellement classique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ressemble vraiment à du Zelda, mais à l'ancienne, quoi. J'ai l'impression d'avoir joué à ce jeu des millions de fois, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, parce que je trouve que c'est quand même intéressant.
Ah, c'est sûr qu'à mon avis, c'est un jeu pour les gros consommateurs de Zelda. Je pense pas que ça va les hyper plus que ça. Hein.
Mais même, par exemple, Darksiders 2, que j'ai un peu en souvenir, graphiquement, ça m'a pas l'air si éloigné que ça, quoi.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Honnêtement, je suis pas très impressionné, quoi. C'est plutôt assez quelconque, en fait. Bon, j'ai pas envie de dire que ça fait génération précédente, mais il y a des moments où c'est... Il y a des endroits où c'est vraiment
après,
pas très joli.
Après, tu
quoi.
Vois, moi, que ça fasse génération précédente, limite, j'en ai rien à foutre. Ce qui me gêne plus, c'est la direction artistique.
Voilà.
Je trouve que ça fait un peu imitation de la patte Joe Madureira.
Oui, oui, complètement.
Et surtout, ça manque de folie, quoi, en fait. Ok, on n'a pas les moyens de faire un jeu absolument magnifique techniquement. Mmh. Et personnellement, c'est pas ce que je demande à THQ Nordic, qui, je le rappelle, oui. est un éditeur qui ressort des licences comme ça et qui essaye de redonner une chance, quoi, on va dire. Ils ont fait ça avec plusieurs licences et j'aime bien le travail qu'ils font. Mais par contre, là, sur ce coup-là, je trouve que ça fait un peu pépère, quoi. Vous voyez, vas-y, ouais. on reprend, on s'était arrêté avant et finalement, on n'essaye pas un peu de mettre le coup de fouet qui manquait peut-être à la licence, quoi.
Mais c'est surtout que d'un point de vue gameplay aussi, on en attend peut-être un petit peu plus aussi. Parce que effectivement, t'as mis le doigt dessus, tirant. D'un point de vue direction artistique, c'est vrai que, bon, ça fait un peu pauvre. Mais c'est pas non plus le cœur d'un jeu. Ce qu'on attend d'un jeu, c'est que son gameplay, il soit aussi bien peaufiné, quoi. Donc là, j'ai l'impression que c'est... Effectivement, on retrouve la licence, on retrouve un ersatz de direction artistique et encore, mais derrière, le gameplay, il a pas spécialement évolué, quoi.
ATH ?
Oui, pour rappeler que Joe Madureira était quand même sur le premier Darksiders, moi, c'est quelque chose qui m'a pas plu du tout non plus, parce que la direction artistique, elle est très ricaine dans l'âme.
Ouais.
Avec des personnages très carrés, très anguleux. Et moi, c'est vrai que ça m'avait un petit peu sorti du jeu. J'avais pas spécialement apprécié la patte du personnage. Mais je me suis dit que l'univers quand même était intéressant et que ça méritait de donner une chance. Mais là même, quand je vois le personnage principal, l'espèce de nana avec des cheveux en feu, quoi, c'est... Voilà.
Les cheveux de Jack et Dexter.
Ouais, voilà, tu vois, c'est comme DMC5, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a l'impression d'avoir joué depuis la PlayStation 2, à l'époque où le Beat'em All était vraiment... très maîtrisé, mais là, c'est un jeu qui me tombe des mains sans y avoir joué.
Ouais, c'est pas pour toi, quoi.
Ensuite, on va maintenant parler... alors, c'est pas vraiment une rumeur, c'est plutôt un leak. Hein.
Oui.
C'est un nouveau jeu Harry Potter. Un jeu Harry Potter où vous allez créer votre propre personnage, vous allez le customiser, ça je pense que ça va être encore un truc où on va y passer trois bonnes plombes, hein, et vous allez tout simplement vivre la vie d'un apprenti sorcier à l'académie dans un jeu un peu ambitieux, et c'est surtout ça que j'ai envie de retenir, parce que alors on parle d'Avalanche, il y avait des rumeurs sur le fait que c'était Rocksteady, mais finalement non, ça a l'air d'être Avalanche. Quoi qu'il en soit, le peu qu'on voit dans la vidéo, il y a l'air d'avoir des moyens sur le jeu.
Ouais.
Et rien que pour ça, moi, j'ai envie de m'y intéresser parce que, personnellement, l'univers d'Harry Potter, même si je suis pas le plus grand fan, on va dire, c'est un univers que j'ai toujours trouvé charmant et à visiter, ne serait-ce que pour les gosses, tu vois, ou tout simplement, même pour les grands enfants comme moi, ben, ça m'intéresse, quoi. Créer mon personnage, vivre la vie d'un sorcier, etc. J'adore. Moi, j'adore.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi, ça faisait longtemps que j'avais abandonné l'idée d'avoir enfin un jeu à budget conséquent sur cette licence-là, parce qu'au final, il y en a très peu qui sont vraiment sortis du lot des jeux Harry Potter. C'est la rigueur, celui dont je me souviens, c'est celui l'école des sorciers, le tout premier qui est sorti sur PlayStation, tu vois, qui était donc ça commence à remonter vraiment, et éventuellement un truc qui était sorti sur Game Boy Advance, mais tu vois, c'était vraiment des petits budgets, et tout le reste, en fait, c'était relativement anecdotique. Et là, j'ai l'impression que Warner donne autant de budget qu'a eu, par exemple, Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor à son époque. Et je pense qu'ils tiennent quelque chose. La licence Harry Potter, elle est toujours utilisée et bien utilisée, et je pense qu'elle fait toujours rêver les gens. Mais il y a moyen que si le jeu est correct, en plus, ça puisse faire des petits, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, de la même manière que Terre du Milieu n'adaptait pas les livres ou les films, pareil, celui-là va se passer en dehors des frameworks des films et des livres, puisque ça devrait se passer au 19e siècle, à Poudlard. Donc ça peut être très très intéressant ça aussi, de justement se libérer du carcan de l'adaptation qui peut être assez pesant pour un certain nombre de jeux. de pas avoir le côté il faut absolument que tu sortes en même temps que ce film parce que sinon tu vas perdre ta fenêtre de tir, ce qui a tué finalement les adaptations de films et de livres en jeux vidéo. Et donc du coup, ça peut potentiellement donner lieu à un jeu qui pourrait être correct. En tout cas, moi j'ai espoir et ça a l'air cool. Après, effectivement, Avalanche, les derniers faits d'armes qu'on a d'eux, c'était Disney Infinity. Après, ils ont Just Cause, me semble-t-il. Du coup, voilà, ils sont à la fois capables de belles choses, et en tout cas, ils sont très certainement experts dans l'utilisation d'un moteur de jeu, donc à voir. En tout cas, ça peut être très très intéressant, je suis très curieux, mais à mon avis, ça sortira pas tout de suite. Hein.
Oui, ce que je trouve aussi intéressant, c'est le côté roleplay, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire tu vas choisir ta maison, tu as le choix entre 8 types de sorciers, etc.
Bah,
il y a vraiment
RPG,
un côté
roleplay
qui, justement, est très intéressant dans un jeu Harry Potter, parce que quand on a découvert Harry Potter, on rêvait tous, tu vois, d'être à Poudlard, de balancer des sorts, etc., de choisir notre maison, c'est exactement ce que voulaient les gens, en fait. Parce que finalement, jouer à Harry, bon, je veux dire... Harry, c'est pas pour te manquer de respect, mais tu fais pas rêver, quoi, comme personnage.
Ouais,
hein,
c'est
donc
clair.
On se calme, on va se manger la fanbase Harry Potter sur la gueule, là.
Je suis pas sûr qu'il serait fondamentalement en désaccord avec ce que dit Tyran, en fait. Je pense qu'il y a, dans cet univers-là, le côté « je rêve d'y être », quoi. Mais pas forcément d'être Harry Potter.
Non, mais on est bien d'accord.
Ou d'être Hermione, ou d'être Ron, quoi.
Que le meilleur perso, ça reste quand même le balai d'Harry Potter.
Non mais honnêtement, c'est pour ça que les initiatives comme Pottermore qui avait été lancée par J.K. Rowling, qui est un site en fait, où chaque personne rentre ses caractéristiques, dans cette situation je ferais plutôt ça, et il te dit, tu serais plutôt dans cette maison-là à Poudlard, ça fait kiffer les gens, et à mon avis, s'ils mettent ce concept-là au cœur d'un RPG dans lequel tu vas façonner ton personnage aussi, puisqu'on a vu une bribe d'éditeur de personnages, à mon avis, ça peut cartonner.
Ouais, enfin, ça dépend. Hein. Si tu tombes à bout de souffle, c'est un peu une voie de garage, quand même. Parce que, je veux dire, sur les
attention. Attention, critique pas trop pouf souffle,
ouais,
parce que là, pour le coup, on va se prendre.
Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont venir me chercher avec leur baguette?
Nous avons un serpentard dans les lieux.
Ah non, je veux être partout sauf à bout de souffle, quoi. Non, mais franchement, pour parler du jeu, sinon, c'est très pertinent d'avoir choisi le 19e siècle. On doit pas suivre la trame scénaristique d'un film ou bien d'un livre. Ça peut ne pas avoir d'incidence directement sur ce qui va se passer après, surtout que ça se passe au 19e siècle, donc on a le temps de voir venir la chose, quoi. En plus, ça, comme t'as dit, Avalanche Studio, c'est quand même des gens qui maîtrisent assez bien les moteurs physiques. Leur plus grosse réussite, ça reste quand même ça sur les Just Cause. Et du coup, là, on voit plein d'effets de sort qui sont balancés, des destructions, des reconstructions de ponts. Ça a l'air quand même assez chouette en termes de features de jeu. Ça peut être pas mal exploité s'ils misent vraiment là-dessus... et avec des effets visuels assez bluffants, donc ouais, le jeu peut le faire, je pense. Le fait d'avoir fait un espèce de RPG, aujourd'hui, la plupart des jeux ont des mécaniques de RPG, mais là, ça serait bien qu'elles soient un petit peu poussées. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette chose-là, c'est que ça permet aux fans de la licence d'approfondir un univers qu'ils ont aimé, qu'ils ont adoré, mais dans un autre contexte. Et du coup, d'aller dans Poudlard et de découvrir Poudlard sous un nouvel angle, tu vois, c'est... quelque chose d'assez chouette, je pense, pour les fans de la série. Donc, ouais, pourquoi pas. Surtout que là, ça a l'air d'être un jeu qui risque d'avoir pas mal de moyens. Donc, voilà, tu vois, avec, on va dire, des jeux faits à la va-vite, ils en vendaient je sais pas combien de millions par an. Donc, s'il y a un peu de qualité, je pense que ça peut vite faire le tour des réseaux sociaux et que, justement, les fans répondent présents, quitte à acheter une console ou un PC juste pour ce jeu-là, quoi.
Alors, par contre, Moran, juste une petite remarque au passage. Pour le coup, dans un RPG qui se veut immersif, faudra peut-être éviter les écarts à l'ombre du Mordor, si tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue lore.
C'est un problème qui va effectivement se poser, parce que, bon, après, c'est pas un univers qui est aussi cadré que celui du Seigneur des Anneaux, en termes de magie.
Ouais, mais il y a quand même deux, trois choses à respecter. Parce que, pourquoi je fais cette remarque? Le Seigneur des Anneaux, il y a quand même des trucs assez fondamentaux qui piétinent de manière assez violente, quoi. Donc,
mais si tu regardes, ne serait-ce que le film spin-off qui est sorti, il y a 2 ans, me semble-t-il, il y a des trucs que tu découvres, tu sais, enfin, c'est clairement un univers où ils se font un peu plaisir, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça devrait aller parce que bon, J'ai pas l'impression que les fans soient aussi tatillons que ceux du
cinéma. Oula. Enfin,
non, mais sans vouloir leur manquer de respect, mais en fait, le truc, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est encore un univers en fabrication. Mm-hmm. Il y a encore des choses qui sont en train d'être faites. L'univers est encore en train d'être développé. Puis, il y a des règles de la magie qu'on apprend encore, tu vois. Sur la bande-annonce du deuxième spin-off là qui sort en fin d'année, le simple fait que c'est possible de piéger un mage dans le corps d'un animal, ça on le savait pas encore, tu vois. Donc je pense qu'il y a encore de la latitude dans cet univers là qui pourrait effectivement donner lieu à des prises de liberté. Après, est-ce que ça sera aussi choquant que dans les deux Terres du Milieu? Je suis pas certain.
Bon, allez, on va enchaîner, messieurs. On va maintenant parler de Telltale Modern, suivi du dossier.
Suivi du dossier, ouais, ça va devenir un de nos marronniers, malheureusement. On en parlait il y a quelques semaines, on disait qu'a priori, il y avait encore une équipe qui restait chez Telltale pour s'occuper des derniers contrats, et a priori, de Minecraft Story Mode pour Netflix, la série interactive. A priori, même cette équipe-là, en fait, c'est terminé.
Non, alors attention.
Une partie de cette équipe.
Oui, il faut être précis, parce qu'il y a plusieurs sites qui ont dit qu'il n'y avait plus personne dans le studio, ouais. C'est pas vrai.
C'est une ex-designer narrative qui s'appelle Rachel. Ça doit pas être son vrai nom sur Twitter, mais bref. Il y a 2 semaines, elle devait rester, et au final, elle s'en va aussi. Et elle parle de son équipe à elle. Donc ça fait au moins plusieurs personnes qui sont concernées. On sait qu'il restait plus grand monde déjà, hein, dans le studio. Donc on sait pas encore à l'heure actuelle s'il reste vraiment des gens pour développer tout ça, mais c'est quand même mal parti, quoi.
Elle a quand même précisé derrière que il y a des gens qui travaillent encore là-bas, mais oui. C'est juste que une équipe, ça fait quoi? Allez, à la louche, 3, 4, 5 personnes, on va dire?
Ouais, certainement.
Ouais, 20 personnes. Petit à petit, hein, le cadavre se décompose, quoi. Et...
ouais.
Voilà. C'était juste pour vous tenir informés, mais... les bobards comme quoi et... Ouais, on va finir Walking Dead
Non.
Sauf si c'est pas eux qui le font,
hein. Enfin, ça sera peut-être externalisé, mais ouais, ça sera jamais fait en interne, c'est une certitude.
Bon, on va maintenant parler d'un auteur que j'aime beaucoup, même si bon des fois c'est dur d'aimer les gens, hein, parce qu'ils se comportent un peu comme des cons. On va parler d'Andrzej Sapkowski.
Bien joué.
Ça se trouve, j'ai complètement écorché son nom, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Ce monsieur, je le rappelle, c'est l'auteur des romans de The Witcher, tout simplement, la saga du sorceleur, n'est-ce pas? Ça fait un certain nombre d'années, n'est-ce pas, qu'on sait qu'il en a gros. Je rappelle notamment cette magnifique interview d'Eurogamer, où le monsieur expliquait qu'en gros, quand les gens de CD Projekt sont venus le voir pour lui demander sa licence, il lui avait proposé un pourcentage sur les ventes. Il leur a dit non, écoutez, votre jeu ça va jamais marcher, de toute façon, allez-y, payez-moi cash et cassez-vous. Ce qu'ils ont fait promptement. Sauf que voilà, on est quelques années après chez Eurogamer et qu'il dit putain, mais qu'est-ce que j'ai été con, quoi. Dans une longue interview où tu sens que le mec a une sonde anale qui lui fait très très mal, et ça se confirme d'autant plus que dans d'autres interviews qu'il a fait après, tu vois que le mec en a plein le cul qu'il y ait des gens qui viennent le voir et qui disent « Ah, au fait, c'est vous qui faites les romans basés sur le jeu The Witcher ?» Bon, ok, c'est des putains d'incultes, d'accord, ok, mais bon, on va pas s'énerver, je veux dire, à un moment donné, voilà, bon, mec, je comprends que ça fasse chier qu'il y ait des gens qui sont incultes qui viennent te dire que ton œuvre c'est pas ton œuvre, en gros. Ça, je comprends que ça fasse chier, surtout quand t'as bossé pendant des années pour arriver là où t'en es. Mais par contre, je trouve ça un peu petit quand même de revenir plusieurs années plus tard avec tes avocats et de dire à CD Projekt « Ouais, alors non, finalement, vous voyez, on a trouvé une petite ligne sur le contrat qui dit que d'après la loi polonaise, il faudrait que vous nous payiez plus. » Voilà. Donc si vous pouvez nous donner, je sais pas moi, allez, 14 millions d'euros, ça serait sympa. Merci beaucoup. Hein ? Ouais. 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 Mm-hmm. Ouais. Alors, honnêtement, J'ai pas envie de parler de cette news pour une histoire de gros sous, parce que après tout, bon, visiblement, CD Projekt, même s'ils lui ont dit non, ils ont pas totalement fermé la porte non plus, et ils excluent pas de lui donner visiblement quelque chose. Et après tout, bon, ça serait bonne guerre, on va dire, parce que finalement...
Non, ça serait pas de bonne guerre. Enfin, quand tu signes un truc, je suis désolé, mais...
Ouais.
Tu peux pas revenir
comme ça
sur tes
accords.
Non, mais
attends, je veux dire, le mec a quand même eu seulement 9000 balles pour l'ensemble de son œuvre, quand même. C'est quand même lui qui a posé toutes les bases de l'univers, etc. Donc bon, pourquoi pas?
Ils vont gérer ça à l'amiable, c'est sûr.
Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est ce côté... Mec, à un moment donné, par contre, il va falloir que tu admettes que... Je suis désolé, tu n'existais pas en France, en fait, tu vois, avant les jeux The Witcher. Et c'est pareil pour les anglo-saxons, tu n'existais pas chez les anglo-saxons avant que les jeux sortent en fait.
Il va te répondre qu'il avait été traduit avant la sortie des jeux, mais bon.
Ouais, non mais voilà, c'était un parfait inconnu, c'était pas George R.R. Martin, c'était pas Tolkien, je suis désolé.
Ouais.
Certes, il avait son succès en Pologne, mais en dehors de la Pologne, c'était Monsieur Personne, faut dire ce qu'il y a quoi. Et... Il faudrait quand même reconnaître à un moment donné que, certes, ça te fait chier que les gens viennent te voir en reconnaissant pas que tu es l'auteur de cet univers-là, ça je comprends que ça fasse chier, mais par contre, il faudrait aussi voir que, sans les jeux, ben oui, effectivement, t'existerais pas en dehors de la Pologne, quoi.
Mais surtout que, enfin, je pense que, tu vois, CD Projekt a fait un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que il s'inspirait de l'univers des romans, le jeu a aidé à faire vendre des romans, et donc du coup, tout le monde y gagnait là-dedans. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que une fois que t'as signé un accord, tu puisses revenir sur un accord qui a été signé au préalable. Après, c'est vrai que peut-être qu'il estime avoir touché trop peu, mais dans ce cas-là, tu négocies directement avec CD Projekt pour voir si tu peux pas toucher quelque chose en plus.
Attention, j'approuve pas la manière dont ça fait, hein.
Je trouve pas déconnant
qu'ils disent, à un moment donné, ouais, alors peut-être les mecs, parce que apparemment, c'est 9000 euros qu'il a touché, hein, 9000 euros.
C'est oui, pas... non, mais c'est pour ça que, enfin, quand t'as donné le montant, j'ai relativisé un petit peu, parce que c'est vrai que 9000 euros pour une œuvre qui s'est vendue à des millions d'exemplaires, ça fait très peu, mais, tu sens vraiment que les mecs, ils ont épluché le contrat de long en large en travers pour trouver la faille, la zone grise, pour attaquer, enfin avoir des arguments contre CD Projekt, quoi. Ce qu'ils reprochent à CD Projekt, c'est les DLC, en fait. Ils disent qu'ils ont fait de l'argent via les DLC, alors que ce n'était pas inclus dans le contrat. Et donc, c'est pour ça qu'ils demandent une somme aussi élevée.
Plus que les DLC, c'est le nouveau jeu, en fait. Genre Gwent, enfin tous les produits dérivés, finalement, de la licence principale.
Ouais. Ça rentre en compte, effectivement.
Après... Je pense qu'il est peu probable que ça aille dans un tribunal, cette histoire, parce que il a demandé une somme qui est extrêmement élevée. Je pense que c'est surtout pour trouver un terrain d'entente. Ils feront ça en sous-main à l'amiable, comme ça se fait souvent dans ce genre d'histoire. Moi, ça me fait penser à autre chose en termes de cinéma. C'est George Lucas et la Fox sur Star Wars. Est-ce qu'on imaginerait la Fox dire à George Lucas « Non, mais je suis désolé, moi aussi, j'aimerais bien un pourcentage sur les produits dérivés de ta marque, là, de science-fiction, ça a l'air plutôt cool et plutôt lucratif. » Quelques années après, non. Effectivement, je suis d'accord avec vous, 9000 euros, c'est très peu pour un auteur, mais et il affirme lui-même qu'il n'imaginait pas que ça puisse faire un carton à ce point-là. Il aurait peut-être aussi fallu... s'aligner sur les pourcentages des recettes plus que choper le cash tout de suite.
Non, mais surtout que ça lui a été proposé au début, en fait. C'est ça le pire.
Voilà. Et donc, effectivement, je peux comprendre qu'il avait aucune idée de ça, mais derrière, je trouve ça un peu cavalier de revenir plusieurs années après pour... Bon, je me fais aucun souci qu'ils vont régler ça à l'amiable et qu'ils trouvera gain de cause, mais c'est un peu dommage, quoi.
Bon, allez, on va terminer l'actualité cette semaine avec Nintendo. Il y a eu une longue interview de Reggie Fils-Aimé qui est sortie cette semaine.
Ouais.
Bon, une longue interview où notamment on voit tout à fait la stratégie de produits dérivés qui est mise en place chez Nintendo, hein, puisqu'on ne parle plus de licence de jeux vidéo, mais de propriété intellectuelle. Bon, ouais. En même temps, on va dire que pour les fans de Nintendo, ça va pas être une découverte, hein, depuis le temps qu'on nous vend des produits dérivés sur les jeux Nintendo. Bon, c'est pas franchement une découverte, voilà. Mais par contre, Reggie, il a aussi parlé d'une chose, du jeu en ligne sur la Switch, mon reine.
Et particulièrement de l'application de chat vocal, qui, on le rappelle, a pour interface un téléphone portable, un smartphone, qui, bien sûr, a été plutôt décrié, et c'est tout à fait impraticable comme solution. Et à ça, il répond donc au GeekWire Summit de Seattle que...
Attention, je fais une précision, c'est pas qu'il répond à ça, c'est qu'à la base, il esquive une question avec
oui,
ça. C'est-à-dire qu'à la base, on lui a dit, dis donc Reggie, le jeu en ligne sur la Switch, est-ce que c'est pas un peu de la merde, le peer-to-peer? Et du coup, il a cru esquiver la question en répondant autre chose, tu vois, sauf que c'est autre chose.
C'est vrai. En fait, il a esquivé une merde à gauche pour rentrer dans une merde à droite, quoi. L'idée, c'est que du coup, au lieu de répondre au fait que bah il y a pas de serveurs centraux dans le online de la Switch, il a préféré répondre sur bah oui, mais en fait, c'est pas mal notre app de chat vocal. Parce que nous, ce qu'on fait à Nintendo, notre approche, c'est toujours de faire les choses différemment. On a une espèce de suite d'expériences que nos compétiteurs offrent, et nous, on veut faire ça différemment. Ce qui implique, du coup, de faire ça comme des merdes, a priori.
Régis Fils-Aimé a dit comme des merdes, d'ailleurs. Hein.
Oui, je citais, bien sûr.
Quelqu'un lui a déjà expliqué que faire les choses différemment, ça ne voulait pas forcément dire faire les choses bien, en fait.
Ouais. Et il va plus loin dans son explication du pourquoi on a besoin d'un smartphone pour parler avec quelqu'un d'autre en ligne sur la Switch. C'est que, d'après lui, l'expérience de la Switch est aussi une expérience portable qui fait que la Switch, on l'emmène et, de temps en temps, on peut être amené à y jouer en ligne dehors et pas chez soi et que, du coup, on n'a pas forcément un micro-casque avec nous. Et qu'est-ce qu'on a toujours avec nous, en plus de notre Switch? C'est un téléphone portable. Et d'après lui, c'est ce qui expliquerait pourquoi il faudrait passer par là.
Mais oui, c'est vrai, Régis.
Ça paraît complètement bancal.
J'y avais pas pensé, un téléphone portable. Mais un téléphone portable, mais dis-moi, ça fait de la 4G. Et la 4G, c'est une connexion Internet. Du coup, je peux transférer ma connexion Internet en Wi-Fi sur ma Switch. Comme ça, je suis connecté à Internet et au monde. Ah, mais Régis, ouais, ça marche plus ton argument. C'est un petit peu con, ce que tu racontes. Ah, non, mais je sais pas, enfin, c'est une technologie qui, on peut le faire d'un téléphone à un autre téléphone. C'est-à-dire que si un pote à moi a une connexion Internet et que j'ai pas de connexion Internet parce que je suis un pauvre prolo, eh ben, je peux lui taxer sa connexion. Bah, du coup, je pourrais le faire sur la Switch aussi. Hein, Régis, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, je te pose la question, moi, enfin.
Alors, je voulais vous poser une question quand même, parce que, d'après vous, est-ce que c'est du bullshit marketing? Ou est-ce que le mec croit vraiment ce qu'il dit?
Non, mais je pense que c'est du bullshit et qu'ils se rendent bien compte que c'est de la merde, leur solution, mais qu'ils sont obligés d'y aller, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, en dehors de sortir un truc éventuellement plus tard. Mais je pense qu'ils essaient pour l'instant d'assumer un petit peu leur différence, entre guillemets, mais que, ouais, un de ces quatre, ils vont revoir ça, c'est pas possible.
Alors moi, je pense tout simplement qu'en fait, c'est une décision qui a été prise par Nintendo Japon. Et que lui, en tant que communicant Nintendo, il peut pas se dire « Ouais, vous avez raison, ce qu'on a fait, c'est totalement dégueulasse. » Ils disent à chaque fois, remarquez bien les communications, c'est « Ce qu'on a fait n'était pas parfait, mais nous avons travaillé sur quelque chose de meilleur. » Enfin, il y a toujours du bullshit pour la communication. Enfin, vous savez, il y a des marketeurs derrière.
Il y a toujours un petit côté en mode « Nous vous avons compris.
» Voilà, exactement. Et du coup, Régis, le pauvre, il a les mains liées. Il peut pas se permettre, tu vois, de dire ce qu'il pense. Enfin, si les patrons disaient vraiment ce qu'ils pensent, ça ferait longtemps que Twitter serait plus en feu, mais ça serait Bagdad, quoi.
En tout cas, moi, je note quand même que... Et à la base, il devait pas parler de ça.
Non, mais c'est clair. Mais ça, de toute façon, il est président, il sait comment s'en tirer avec une pirouette.
Bon, quoi qu'il en soit, hein, je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que avoir un téléphone en plus pour discuter avec quelqu'un, enfin c'est con. Enfin,
ouais. C'est surtout la raison qui avait été donnée à l'époque. Hein. Enfin, rappelez-vous de la première version, c'était on fait ça pour protéger les enfants sur Internet.
Please.
Enfin, bref, voilà. Reggie, merci de nous avoir fait bien rigoler. Je vous mettrai le lien vers l'article parce que bon, il dit pas que des conneries dans cet article.
Il y a pas que des choses intéressantes dedans, ouais.
Il parle de la stratégie, notamment, du fait que, sans la Wii U, la Switch n'existerait pas. Mm-hmm. Voilà. Bon, ce dont on se doutait un peu, hein, parce que finalement, la Switch, c'est une Wii U qui marche, quoi.
Ouais, mais même dire la Wii U, c'était de la merde, il ne peut pas le dire, même s'il le pense, tu vois. Aujourd'hui, la communication, elle est tellement verrouillée que tu peux même plus te permettre d'avoir une petite opinion sur ton entreprise.
Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes sur le fait qu'il veut plus vraiment que Nintendo soit connu comme une marque de jeux vidéo pur, mais comme une entreprise de divertissement.
Mais en vrai, c'est toujours ce qu'a été Nintendo. Hein.
Bien sûr. Bien
ils
sûr.
Viennent pas du jeu vidéo à la base, hein. Faut le rappeler quand même.
Bien sûr.
Oui, ils viennent
des c'est vrai que voilà, il veut faire en sorte que ça soit encore plus large que ça ne l'a été par le passé, et ça vient évidemment dans le traitement de la propriété intellectuelle, qui a été un mot très très important dans son allocution. Mm-hmm. Le côté développement. Produits dérivés, l'attraction chez Universal Studio au Japon, le film Super Mario animé qui arrivera en 2020. Il veut vraiment que Nintendo ait une mainmise plus globale, encore une fois, sur le divertissement mainstream, quoi.
J'espère que vous êtes prêts à en acheter des merdes, hein, parce que...
Ah, mais même, rappelez-vous de Fei Iwata quand il disait que Nintendo voulait plus s'orienter aussi sur des applications de santé, ce genre de choses-là, pour étoffer justement la gamme de produits Nintendo. Mais franchement, si j'ai une chose à retenir de Regis Fils-Aimé, c'est quand même un mec qui m'a fait marrer, et pour ça je l'aime, c'est que lors de l'annonce de Smash Bros sur Wii U à l'E3, t'as quand même le PDG de Nintendo USA et de Nintendo Japon qui se foutent sur la gueule pour se mettre en scène, pour vendre Smash Bros. Et ça, franchement, il n'y a pas d'autres entreprises dans le monde qui le font, donc juste pour ce moment de rire, Regis, je t'aime quand même.
Oui, et puis même quand tu sors des conneries comme ça, tu nous fais bien marrer. Hein. Bon, allez, on va terminer sur notre jeu du moment, et le jeu du moment, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup trop joué, c'est Warframe. For generations you slept, no purpose, no call to wake you. Wake up, Tenno. Shadow. Damn them all. Dream. Not of what you are. But let the beasts do their work. Forgive me.
Mais dis-moi, Tyran, qu'est-ce que c'est Warframe ? Parce que honnêtement, je vais te le dire très franchement, Warframe, c'est un jeu dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler sur Twitter, parce que je suis notamment Exerve, qui est vraiment tombé dedans récemment. Mm-hmm. J'ai vraiment du mal à comprendre ce que c'est que Warframe et pourquoi il y a une hype autour de ce jeu en ce moment.
Alors, je vais te résumer en une phrase. Pourquoi il y a une hype autour de Warframe ? Parce que dans Warframe, tu joues des ninjas de l'espace.
Ah.
Et ça, les ninjas de l'espace, c'est cool.
Drop the mic.
Voilà, merci, au revoir.
À la semaine prochaine.
Salut.
Non, mais t'as oublié la chose plus importante. Des ninjas de l'espace en exosquelette.
S'il te plaît, attention. Warframe, c'est quoi ? Warframe, c'est un TPS qui a emprunté 2-3 choses à Vanquish et qui a rajouté du parcours dedans parce que le parcours, c'est bien. Voilà.
Parcours.
Et tu joues un ninja de l'espace qui est un espèce de mercenaire, on va dire. Tu es réveillé un beau jour par une race qui s'appelle les Grenier, qui sont en gros des espèces d'humains mi-cyborgs complètement dégénérés, qui à force de se cloner de génération en génération sont devenus complètement cons, qui sont exclusivement orientés vers la guerre, quoi, on va dire. Les Grenier, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ben, ils cherchent des Warframe. Alors, qu'est-ce qu'une Warframe ? Ça fait partie des mystères du jeu, voilà.
D'accord.
Tu devines que c'est l'espèce d'exosquelette que tu pilotes, mais t'en sais pas plus, quoi, fondamentalement. Tu sais juste que t'es un ninja super cool qui va buter des gens. Et donc, un beau jour, t'es réveillé, comme ça, alors que t'es en stase, il y a les greniers qui débarquent et qui t'attachent un espèce de collier, on va dire, qui est censé prendre le contrôle de ton esprit. Oui, parce que les Warframe, apparemment, visiblement, ça a une conscience propre, et c'est un peu chiant, tu vois, quand tu veux leur faire faire des trucs avec lesquels ils sont pas d'accord. Hein. Donc, du coup, ils essayent de prendre le contrôle de ton esprit, mais ils y arrivent pas, bizarrement. Pourquoi ? Ça fait partie des mystères de l'histoire. Vous allez entendre beaucoup ça hein, dans mon discours. Vous êtes réveillé à ce moment-là, vous entendez une voix dans votre tête d'une nana qui s'appelle Lotus. Le Lotus, visiblement, c'est un peu une espèce de figure maternelle, mais une figure maternelle en même temps qui t'envoie te bastonner dans tout l'univers parce que tu es une Warframe et les Warframes, bah, c'est là pour rétablir l'ordre, quoi, un peu quand même, quoi. Mm-hmm. Tu comprends petit à petit qu'en fait, t'es dans un univers post-apocalyptique où il y a eu des choses pas très glorieuses qui sont passées à l'époque d'une race qui s'appelait les Orokin. Visiblement, c'est le troisième Reich qui a duré un millénaire, tu vois, mais vraiment, quoi, en vrai, dans l'espace. Et donc, toi, visiblement, tu es un des produits de cette civilisation qui s'est écroulée.
D'accord.
Pourquoi elle s'est écroulée? Vous l'apprendrez dans l'histoire.
Et ça se traduit comment, ça, du coup, en termes de gameplay? Il est terrestre, il est dans l'espace, comment ça fonctionne, en fait? À quoi tu joues, en fait?
Alors, à quoi tu joues? Bah, comme je l'ai dit, tu joues un ninja de l'espace. Tu vas aller dans des niveaux qui sont générés procéduralement. Et je dis bien procéduralement parce que ce n'est pas de l'aléatoire. C'est-à-dire que c'est des niveaux avec un vrai level design, vraiment intelligent, vraiment bien foutu, qui te donne envie d'explorer le niveau, tout simplement. Et d'ailleurs, du point de vue de ce que proposent ces niveaux, il n'y a rien d'innovant, on va dire. C'est-à-dire que, en gros, t'as quoi? T'as un mode horde, tout simplement. T'as un mode où tu dois exterminer tout le monde. T'as un mode où tu dois défendre un point. T'as un mode où tu dois défendre plusieurs points successifs, etc. Je veux dire, il y a zéro innovation dans les objectifs, fondamentalement. Mais c'est la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te retrouver dans des niveaux avec un level design génial. Et surtout, du parcours. Et c'est là où Warframe commence à prendre tout son sel, finalement, c'est-à-dire que là où la plupart des TPS m'emmerdent extrêmement fondamentalement parce que les TPS c'est chiant, voilà, Warframe c'est un jeu qui ajoute le dynamisme de Vanquish, mais surtout qui ne se contente pas de prendre des éléments de Vanquish, il rajoute sa formule par-dessus. C'est-à-dire que tous les déplacements, t'es vraiment dans un ninja qui va sauter à plusieurs mètres de hauteur, qui a une fluidité dans les mouvements qui est absolument incroyable. Et finalement, c'est là d'où vient tout le plaisir du jeu de Warframe, c'est-à-dire le plaisir de contrôler un personnage qui répond au doigt et à l'œil dans un niveau super bien conçu.
Donc si j'ai bien compris, en fait, tu joues un espèce de jeu où tu incarnes un personnage à la Mirror's Edge avec les capacités de Vanquish et tout ça dans l'espace.
Tout à fait. Et en étant super classe, parce que c'est important.
Donc c'est un gameplay de plus d'esquive et de mouvement que de couverture, comme peut l'être un Gears of War, par exemple.
Il n'y a aucun système de couverture dans ce jeu.
Ok.
Et de toute façon, ça ne servirait à rien d'avoir un système de couverture dans ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui ressemble énormément à un hack and slash. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, Warframe, si vous voulez, c'est Borderlands en intéressant.
Tu vas te calmer mon pote parce que Borderlands ça joue en coop déjà et Borderlands c'est très cool quand on y joue avec des amis, donc tu retires cette mention.
Warframe ça joue en coop déjà et c'est très cool quand on y joue avec des amis, c'est encore plus cool que Borderlands. Bon, après c'est très subjectif, hein. Attention, là je clash Borderlands mais c'est plus pour la pique qu'autre chose. Moi Borderlands c'est un jeu qui m'emmerde, voilà. Pourquoi c'est un jeu qui m'emmerde? Parce que je trouve que c'est un jeu qui est mou. Alors certes, qui est très bien écrit, ça je le reconnais.
Et puis il est joli aussi.
Ouais, qui est très joli aussi, voilà, qui a une super ambiance, etc. Mais par contre, d'un point de vue gameplay, moi quand j'y ai joué avec Mandra et Mamie, je me suis fait chier. Parce que, certes, oui, c'est drôle, lol, mais ça reste un hack and slash, tu vois, sans les subtilités que peut avoir un hack and slash en vue du dessus, parce que la vue, c'est quand même important. J'ai trouvé que c'était un jeu très bourrin, en fait, tu vois.
C'est pas pour rien qu'on a arrêté d'y jouer, d'ailleurs.
Oui, enfin, moi, personnellement, je me suis emmerdé. Voilà.
Non, mais après, les goûts, les couleurs, voilà.
Ah oui, non, mais tout à fait, hein. Ça, c'est mes goûts perso à moi. Le truc, c'est que Warframe, il ajoute un dynamisme à cette formule-là qui fait que, voilà, je prends mon pied à sauter partout, à essayer de terminer les niveaux le plus rapidement possible, etc. Bref, je m'amuse. Alors, par contre, une précision, maintenant que ça s'est dit, j'ai jamais trouvé le gameplay d'Hack and Slash fascinant au point de me dire, ok, je vais y jouer plusieurs centaines d'heures, même s'il n'y a plus d'histoire derrière, quoi. Voilà. Et mon problème avec Warframe, ça a été que au début, bah, il n'y a pas d'histoire. Parce que, voyez là, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, tout ça, vous le verrez dans l'histoire, etc. En fait, oui, vous le verrez après 30 heures de jeu. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que Warframe, en fait, c'est un jeu qui a eu des débuts très difficiles, et ça se voit. Et ça se voit d'autant plus que, en fait, à partir de 30 heures, d'un seul coup, il y a le scénario qui commence à démarrer. Et d'un seul coup, il y a le budget qui arrive, en fait. C'est-à-dire que jusque-là, le scénar, c'était grosso modo trois pauvres dialogues balancés dans une mission, tu croises des PNJ par-ci, par-là, que tu recroises plusieurs missions plus tard, etc. C'était vraiment le truc vite fait, quoi. C'est-à-dire il y avait pas de cinématique, pas de mise en scène, que dalle. À part la cinématique d'intro, pas de zap.
Attends, j'ai un appel de Square Enix, là. Oui, allô ? Oui, oui, j'ai trouvé un jeu aussi chiant que vous pour Final Fantasy XIII, oui. Faut 30 heures de jeu apparemment pour commencer l'histoire. Oui, je vous les envoie. Oui, d'accord, je vous envoie les scénaristes, merci.
Alors, maintenant, il y a un autre problème à ça, c'est que le jeu était, à mon goût, un peu trop facile. C'est-à-dire que, malheureusement, il souffre du syndrome de tous les hack and slash, c'est qu'un hack and slash, c'est jamais très très difficile. Hein. T'es là pour enchaîner les ennemis, t'es là pour tuer le plus d'ennemis possible, et le début du jeu est très facile. Maintenant, je voulais dire une chose. Tous les gens qui vous vantent l'univers absolument fantastique de Warframe, tous les gens qui vous vantent le côté très plaisant du gameplay, etc. Alors certes, le gameplay est très plaisant, hein, parce que sinon j'y aurais pas passé 30 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, quand un jeu il m'emmerde vraiment beaucoup, j'arrête. Mais par contre, on n'y est pas passé loin. C'est-à-dire que moi, quand le scénar a commencé à démarrer, j'étais à deux doigts d'arrêter.
Ah oui.
Voilà. Warframe, c'est pas un jeu auquel vous allez jouer pour l'histoire. Parce que l'histoire, elle démarre au bout de 30 heures et que vous avez largement le temps de vous faire chier avant ça, quoi. Voilà.
D'accord.
Donc je voulais insister sur ça pour tous les gens qui ont lu des avis de machin, de bidule, qui disaient que ouais, putain, mais il y a Warframe, c'est un univers de ouf, il y a des personnages géniaux, etc. Alors oui, c'est vrai, mais après 30 heures de jeu.
Ouais, faut vraiment débloquer le truc, quoi. Je t'ai entendu évoquer du coup l'aspect coop du jeu. J'ai eu un peu de mal à le situer dans ta description du gameplay. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des instances, des trucs dans ce genre-là, ou c'est uniquement avec des amis ?
Ah mais on va faire très simple. Écoute, Morren, vous prenez Phantasy Star Online, vous lui ajoutez le gameplay de Vanquish, vous rajoutez quelques petites features sur le parcours, et vous allez voir Warframe. C'est-à-dire que vous allez jouer à 4 dans des missions instanciées en coop, avec des classes de personnages, parce que ce que je vous ai pas dit, en fait, depuis le début, là, je vous parle des Warframe. Qu'est-ce qu'une Warframe ? J'ai quand même une petite réponse. D'un point de vue gameplay, une Warframe, c'est une classe de personnages. Voilà.
Ok.
C'est une classe de perso que vous pouvez monter jusqu'au niveau 30, et là, j'arrive sur la progression du jeu. C'est-à-dire que Warframe a ceci de très particulier que vous montez très très rapidement de niveau. Et que c'est pas en montant de niveau que vous allez être plus puissant, en fait. Je m'explique. Parce que je sens qu'il y en a qui sont perturbés, là, dans l'assistance. Donc, panique. Je vais vous expliquer.
Ouh là là, je suis perturbé.
Alors, comme je le disais, vous allez augmenter les niveaux de votre Warframe. Sauf que ces niveaux, ils ne permettent pas de faire augmenter la puissance de votre personnage. Ce qui permet, ces niveaux, c'est de débloquer des emplacements dans votre Warframe qui vont permettre de déposer des cartes. Ces cartes, qui valent un certain nombre de points, non seulement elles vont vous permettre d'augmenter les statistiques de votre personnage, mais en plus, vous allez pouvoir débloquer certaines capacités. Et vous l'aurez deviné, plus vous allez augmenter de niveau, plus vous allez avoir de points disponibles sur votre Warframe. Et donc, forcément, comme une carte consomme un certain nombre de points, il y a un moment donné où votre Warframe elle va saturer, elle va dire « Écoute, là, mec, c'est plus possible, t'as posé trop de cartes, il faut que tu optimises ton build. » Et donc l'idée c'est quoi ? C'est que vous allez collectionner les Warframes en fait, tout simplement. C'est-à-dire que chaque Warframe a des capacités spéciales. Par exemple, moi j'aime beaucoup jouer Frost, que j'appelle très affectueusement Mr. Freeze. Voilà, hein, le nom est assez explicite je pense. C'est-à-dire qu'il congèle tout le monde et c'est son job et il le fait très bien. Chaque Warframe a des capacités spéciales, a un thème bien précis. Par exemple, Inaros, c'est l'Égypte, le sable, etc. Excalibur, bon, je pense que le nom parle de lui-même.
Oui, Star Wars, c'est ça.
Le fameux.
Voilà. Donc, chaque Warframe a un thème précis, chaque Warframe a des capacités spéciales. Et donc, à chaque fois que vous allez arriver au niveau 30 d'une Warframe, vous allez poser des cartes, lui attribuer des capacités et customiser votre Warframe. Bon, je vais être honnête avec vous, je vais pas m'attarder sur cet aspect, pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a tout un tas de gens qui vous l'ont déjà expliqué mille fois mieux que moi, et c'est pas l'aspect essentiel, selon moi, dans ce jeu-là.
Ouais.
Hein ? Donc, pardonnez-moi les fans de Warframe si je ne vais pas dans le détail, n'est-ce pas? Mais là, on est parti pour 3 heures de podcast, si je vais dans le détail, en vrai.
On va essayer d'aller un peu plus vite que ça. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui a l'air relativement touffu en termes de contenu. Il y a beaucoup de choses à faire et à ingérer. Est-ce que c'est pas trop au bout d'un moment, en fait? Est-ce que tout ce qui est dans le jeu suffit à comprendre ce que tu dois faire ou tu dois te baser aussi sur des tutos pour mieux optimiser tes builds ou au final tout s'explique relativement facilement?
Moi, je veux faire sauter certains préjugés qu'on peut avoir sur Warframe. Alors certes, le jeu est extrêmement mal foutu. C'est-à-dire que pour moi, ça manque de tutos, ça manque d'explications, ça manque de visibilité sur ce que tu peux faire dans tes builds, etc. Par exemple, là depuis tout à l'heure, je vous parle du fait de poser des cartes, mais comparons par exemple avec un Path of Exile. Path of Exile, qui est un autre hack and slash, t'as un espèce de sphérié à la Final Fantasy, et tu vois tout de suite ce que tu peux faire. C'est-à-dire que tu vois les capacités que tu vas pouvoir débloquer plus tard, etc. Tu commences à te faire un plan sur ton leveling. Warframe, c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est-à-dire que les cartes, tu les chopes au pif dans les niveaux, t'as aucune idée des capacités spéciales qui vont être mises à disposition. Et en fait, il y a plein de choses que tu ne vas pas apprendre dans le jeu, mais que tu vas apprendre en regardant des vidéos tuto. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait le succès du jeu et de sa communauté, parce que finalement, il y a beaucoup de youtubeurs qui appréciaient le jeu, qui sont mis à faire des tutos sur ce jeu-là, et je pense que ça fait partie aussi de son succès. C'est-à-dire que c'est un jeu finalement qui a une énorme visibilité sur YouTube, en partie à cause de ça.
Ça me rappelle un certain Dark Souls.
Ouais. Est-ce que ça fait partie aussi du coup de l'expérience de jeu, c'est-à-dire que le développeur part du principe que c'est l'effort que tu vas faire aussi à l'extérieur du jeu qui va t'amener à l'apprécier plus, à mieux y jouer, etc.
Alors, je sais que c'est le discours que tiennent les fans, pour moi c'est du bullshit.
Voilà. C'est clair, net et précis.
En vrai, il y a des jeux qui sont tout aussi complexes que Warframe si ce n'est plus, parce que voilà, c'est moi, c'est ça qui me pose problème avec le discours ambiant sur Warframe, c'est qu'on le fait passer pour un jeu ultra complexe, mais en vrai, Path of Exile, qui est 1000 fois mieux foutu dans son interface, je le trouve bien plus complexe que Warframe. Hein. Et alors, je précise, moi je suis un joueur d'Eli Dangerous aussi, hein, dans le genre jeu 1000 fois plus compliqué que Warframe, où le simple fait d'arriver à poser ton vaisseau en manuel dans une station spatiale, t'as l'impression d'avoir accompli la Lune, tu vois.
C'est une usine à gaz, ce jeu.
Voilà, exactement. Donc pour moi, si tu veux, quand on me dit que Warframe c'est un jeu complexe, je suis là... Voilà, ça me fait un peu rigoler, quoi.
Ouais.
Pour moi, c'est un jeu qui est inutilement complexe, en fait. C'est-à-dire que tout l'aspect complexité, il va venir du côté « Ouais, il y a rien qui est expliqué, va chercher dans un wiki, quoi. » Et c'est pas parce que tu simplifies la chose que derrière, tu vas pas avoir une communauté qui va se mettre en place, qui va, par exemple, faire des builds. Parce que c'est ça, le truc qui est intéressant dans un cas de ça. Je veux dire, Diablo 3 est 1000 fois plus clair que Warframe, par exemple. Et je suis désolé, il y a une communauté quand même autour de Diablo 3, quoi. Enfin, voilà.
Oui, oui.
Donc, la clarté n'empêche pas de mettre en place une communauté qui va s'entraider, qui va expliquer comment faire des builds pétés. Parce que de toute façon, je veux dire, Path of Exile a beau avoir une interface 1000 fois plus claire que Warframe, il a beau expliquer 1000 fois mieux comment monter tes persos, etc. Il n'empêche qu'il y a des gens qui ont la flemme et qui vont aller voir des vidéos tuto sur YouTube.
D'ailleurs, ça,
l'un n'empêche pas l'autre.
C'est assez étrange de ce que tu dis, parce que au départ, tu nous dis que le jeu était assez simple en y jouant en coopération, et d'un autre côté, le système est complexe. Donc, je trouve que c'est quand même un peu paradoxal par rapport à ce que...
Ah non, pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est pour ça que je te dis que je commence à m'emmerder. C'est-à-dire que, certes, la prise en main est immédiate, enfin, le côté gameplay pur, tu vois, genre je me déplace dans le niveau, etc. C'est très intuitif, ça marche très bien, c'est très facile à prendre en main. Et de toute façon, les ennemis sont tellement faibles que t'avances comme dans du beurre, quoi. Et c'est bien ça mon problème, c'est que au bout de 30 heures, tu vois, au moment où j'ai failli arrêter de jouer, j'avais l'impression un peu de, comment dire, de faire des builds pour rien, quoi.
Ouais.
Je me casse la tête à essayer de réfléchir à mon build, mais finalement, pourquoi je me casse le cul? Parce que même si je ne me faisais pas chier à faire un build, cet ennemi, je lui casserais la gueule sans forcer, tu vois.
Ouais, mais quand tu parles d'ennemis d'ailleurs, c'est que là, tu parles d'ennemis contrôlés par l'IA, mais vu que c'est un jeu essentiellement multijoueur et qu'il y a de la coop, est-ce qu'il y a aussi du PVP versus d'autres joueurs?
Il y en a dans le jeu, il paraît. Personne n'y joue, donc okay. Moi je vous avoue, j'y ai jamais joué.
Non, non, mais qui c'est ?
J'y ai jamais joué, et voilà, mais voilà, j'y ai jamais joué, et de ce que j'ai lu, personne n'y joue.
D'après une légende.
D'après une légende, il y a du PVP, personnellement, j'y ai jamais touché. Okay. Hors de 100 heures de jeu. Et de toute façon, pour moi, c'est pas l'intérêt du jeu, et je pense que le PVP serait nuisible pour le jeu, parce qu'il y a une autre chose, par contre, que j'apprécie énormément dans le jeu. Et ça, par contre, je trouve que ce n'est pas une légende. C'est une des meilleures communautés que j'ai jamais vues dans un jeu multijoueur. Les gens sont super compréhensifs. Quand ils sont avec un noob, enfin moi, ça m'est arrivé de faire de la grosse merde. Les gens m'ont expliqué ce qu'il fallait faire, etc. En étant patient. Vraiment, super communauté. Voilà.
Ok. Moi, j'avais une question sur le côté foisonnement de contenu. Parce que tu disais qu'il fallait arriver à 30 heures de jeu pour enfin pouvoir profiter d'un scénario. Et que c'est a priori un jeu qui est extrêmement chronophage. Est-ce que justement il n'y a pas trop de contenu?
Alors, ça dépend de par quel bout on prend le problème. C'est-à-dire que Warframe, fondamentalement, je vous le dis, en dehors du gameplay, une autre motivation pour jouer à ce jeu, qui n'est pas la mienne, je précise, c'est la collectionnite. C'est-à-dire que des Warframe, donc des classes de personnages, t'en as à peu près 50, je crois, dans le jeu. Donc ça fait beaucoup. Surtout qu'il y en a certaines pour les avoir... Bonne chance. Je ne dis que ça. Donc ce côté-là, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Le côté, je vais customiser mon perso. Ah oui, parce que aussi, je m'étends pas là-dessus, mais il y a tout un aspect fashion frame, un peu comme Fashion Souls, tu vois. Des merdes à choper pour customiser ta frame, il y en a dans le jeu. Hein. Donc des armes, il y en a à ne plus quoi savoir en foutre. Surtout que t'as trois types d'armes, une au corps à corps, une secondaire, une principale. Voilà. Plus les compagnons, plus machin, plus bidule. Enfin, il y a plein de trucs à collectionner. Et ça, ça marche très bien. Par contre, moi, il y a un truc sur lequel je suis pas fan. C'est le côté, comment dire. Comme c'est un jeu, tu sais, qui mise essentiellement sur son contenu pour faire rester les gens, ils ont tendance à aussi rajouter plein de choses sur le gameplay, tu vois. Par exemple, dans le jeu, tu vas choper un espèce de jetpack, tu vois, il y a des missions en jetpack, on va dire. Et ces missions, elles ont un gameplay spécifique. Vous voyez Macross, un petit peu ? Robotech, tout ça, bah vous avez ce gameplay dans Warframe. Moi, je suis désolé, mais ça marche pas terrible, en fait. C'est-à-dire que ce contenu-là, par exemple, bah tu sens qu'il est pas aussi développé que le contenu original et qu'il a peu été mis là pour comme une distraction, tu vois. Et finalement, je trouve que le contenu qui marche le mieux dans ce jeu, c'est encore le contenu qui se concentre sur l'idée que on va renforcer le gameplay qui marche dans le jeu. C'est-à-dire le contrôle des ninjas de l'espace.
D'accord.
Par exemple, il y a des phases de plateforme un peu corsées dans ce jeu-là pour débloquer certaines zones cachées avec un level design super bien shadé, etc. Et ça, je trouve ça cool. Parce que ça enrichit le gameplay de base. Mais quand on commence à t'ajouter du gameplay annexe, là par exemple dans la prochaine update, on va faire du snowboard. Ouais, super. Là, moi, ça m'intéresse pas trop. Et là, c'est pareil, tu sais, la grosse dernière update, c'était les plaines d'Eidolon. Ces plaines, en gros, c'est une immense zone ouverte. Bon, où vous serez toujours 4 pelos en instance, hein, mais c'est une immense zone ouverte. Où finalement, tu sais, t'as plus ce côté exigu qu'il y a dans la plupart des niveaux du jeu. Et je trouve que c'est pas super passionnant, en fait. Pourquoi ? Parce que, comme c'est une zone ouverte, ben, finalement, t'exploites pas le gameplay du jeu. Parce que le gameplay du jeu, c'est quoi ? C'est, je vais sauter sur des murs pour atteindre des endroits où je pouvais pas aller. Tu vois ?
C'est un peu difficile dans une plaine, effectivement.
Ouais.
Exactement.
Il y a un peu des fausses bonnes idées, du coup.
Voilà. En fait, il y a du contenu qui est là, qui est sympa. Ça te fait passer le temps, quoi. Mais est-ce que ça enrichit forcément le jeu ? J'en suis pas convaincu.
D'accord.
Voilà.
Il y a une autre question que je me pose, et c'est en grande partie pour ça que j'ai pas pris le jeu et j'y joue pas. C'est la question du farming dans Warframe. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire ?
Tout est dans le titre.
Alors, deux choses l'une. Soit vous appréciez le gameplay du jeu et vous vous rendrez même pas compte que vous êtes en train de farmer. C'est-à-dire que ce jeu, il a ceci de particulier que une mission, ça dure quoi ? Allez, 5 minutes ? Et souvent, t'arrives le soir, tu sais, tu rends du taf et tu te dis, bah, allez, je vais faire une petite mission.
Ah. Oui, la fameuse petite mission.
Voilà. Et puis une de plus.
Voilà, et puis une de plus, puis une de plus, puis une de plus. Bien sûr. Et finalement, en faisant tout ça, alors certes, du coup, comme tu fais une de plus, si t'es pas trop con, tu te dis, bon, tant qu'à faire une mission de plus, autant d'essayer de farmer en même temps, tu vois. Hein.
Ouais.
Et donc là, du coup, ça me gêne pas, tu vois. Parce que moi, en fait, j'adhère tellement au gameplay du jeu que, ouais, farmer, oui, mais en fait, moi, j'y joue pas pour le farm, donc je m'en fous un peu, tu vois, du farm. Mmh. Maintenant... Moi, je vous le dis tout de suite, si c'est un jeu où à un moment donné vous vous dites encore du farm, arrêtez tout de suite. Ce jeu n'est pas pour vous.
Ouais.
Moi, c'est ma réponse, c'est que si vous appréciez le gameplay du jeu, vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes en train de farmer.
Ouais, c'est ça, c'est enfin d'après ce que tu es en train de dire et de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que si tu fais le jeu, bah après tu me dis si je me trompe, mais c'est que t'es pas le jeu te pousse pas à farmer spécifiquement tel type de ressources ou autre chose, mais tu le fais de manière assez naturelle en fait en y jouant tout simplement.
Alors, il t'aiguille quand même pas mal, tu sais, par exemple, imagine, tu vois, il y a une arme que tu veux absolument,
ouais.
Et pour telle arme, t'as besoin de tel type de ressources, parce qu'il y a des ressources, il y en a plein.
Ouais, mais après, ça, c'est comme dans tous les types de jeux, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas non plus...
Oui, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que Warframe a ceci d'intelligent que quand tu es un joueur débutant, t'es pas lâché comme ça dans la nature, c'est-à-dire que t'arrives sur une carte qui représente le système solaire,
ouais.
Et en fait, tu dois te déplacer de planète en planète et faire des missions spécifiques. En gros, tu peux pas aller sur n'importe quelle planète comme ça, tu vois. Pour accéder à telle zone, il va falloir que tu fasses telle mission avant. C'est ce qu'on appelle le Star Chart. C'est la carte principale du jeu. Et en gros, le jeu ne commence qu'une fois que tu as complété entièrement ce Star Chart. Sauf qu'une fois que tu as complété ce truc, ben en fait, t'as déjà pas mal de ressources, quoi. Sérieusement, ça plus le fait que si t'es pas totalement idiot non plus, t'as peut-être des potes qui ont déjà joué au jeu, ou alors tu es dans un clan, et peut-être que tes potes de clan, ils pourront te filer une arme en échange de clopinettes, tu vois, ce genre de choses.
Ok.
Pour moi, fondamentalement, le farm n'est pas vraiment un problème, pour répondre à ta question, Morane.
Ouais, on va peut-être revenir aussi, parce qu'on l'a pas encore mentionné, mais Warframe, c'est un jeu qui est gratuit.
Enfin, gratuit.
Voilà, c'est justement la question que je veux poser, puisqu'on en parlait beaucoup la semaine dernière avec mon jeu en Early Access qui sera free to start. Comment ça fonctionne Warframe ? J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes à dire là-dessus.
Alors, je dis tout de suite pour moi le côté free to play, c'est du bullshit. Pourquoi je pense que c'est du bullshit ? Parce que dans un jeu qui incite très fortement à la collectionnite... Mettre un espace d'inventaire tellement limité que, au bout de très très peu de temps, t'es obligé de sortir la carte bleue.
Ouais.
Voilà. Après, les prix pratiqués sont pas du tout choquants. Au prix d'un jeu normal, on va dire. Quand je dis au prix d'un jeu normal, c'est 30, 35 euros.
Tu me rassures, j'avais peur que ça soit 70, 60.
Cela dit, moi j'en ai dépensé 70, hein, mais.
Ouais, d'accord. Ok.
Mais moi j'y ai beaucoup.
Bah, tu l'as acheté chez Micromania, c'est tout.
Voilà. Mais, pour 30, 35 euros, t'es tranquille au niveau de l'inventaire.
Ok.
Mais c'est pour ça que je dis que pour moi c'est du bullshit, parce que dans un jeu qui incite à la collectionnite, mettre des limites sur l'espace d'inventaire, très clairement, ouais. Au bout d'un moment,
ouais,
sauf si t'as des potes dans le jeu qui vont t'aider à récupérer des plates, qui est la monnaie du jeu, pour débloquer des emplacements d'inventaire, sauf si t'as des potes, par exemple, tu sais qu'ils vont te filer des armes super rares que tu vas ensuite revendre à d'autres joueurs, parce que c'est ça le délire en fait. En gros, pour acquérir la monnaie du jeu, t'as deux possibilités. La carte bleue, ou vendre des trucs super rares à d'autres joueurs. Alors, pas forcément super rares, des trucs où les joueurs ont la flemme de farmer, par exemple.
Ouais.
Mais ça te rapportera pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens sur ce créneau-là. Et ce qui rapporte, c'est les items rares. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est que il vaut mieux être dans un clan, parce que dans un clan, ouais. Si t'as des potes qui jouent depuis Watt 1000 ans, ça se trouve, ils ont des trucs dont ils ne servent pas.
Ouais.
Ils peuvent te les filer et te dire, ça, vends-le sur la place de marché, parce que ça va te rapporter masse de thunes.
Okay.
Et donc voilà, c'est les deux moyens de récupérer de l'argent, soit vendre à d'autres joueurs, soit sortir la carte bleue.
Okay.
Voilà. Encore une fois, je vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que voilà. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, est-ce que c'est un pay to win ? Parce que c'est
oui.
La question, voilà. Alors déjà, pay to win, non, parce que enfin, il n'y a rien à gagner, hein, tout simplement. Je veux dire, c'est un jeu PvE. T'es pas en PvP, t'as pas fondamentalement d'avantage sur les autres joueurs, et limite, tu vas aider les autres joueurs si t'es plus puissant, donc pourquoi pas. Mais apparemment, il y a des gens qui accusent le jeu d'être un pay-to-win, mais je sais pas, pour moi, si le jeu était vraiment pay-to-win, ça veut dire que les devs sont particulièrement cons, parce que une des Warframes de base qui te donne, qui est Excalibur, c'est une des Warframes les plus pétées du jeu. Et il y a plein de trucs comme ça, les armes les plus pétées du jeu, elles sont pas forcément, tu sais, après un farm super intense, hein. Pas forcément. Ouais. Il y a D'accord. plein d'armes qui sont super craquées, que tu peux avoir très rapidement.
Ouais, ouais.
Vraiment, pour moi, si c'est un pay to win, franchement, ils sont pas très intelligents. Il y a quelque chose qui va mal, hein. C'est mal fait.
Mais voilà. La question la plus importante, c'est après tout ce temps passé à y jouer, est-ce que aujourd'hui tu penses y retourner encore faire quelques parties, ou tu penses que vraiment là t'as fait le tour de la question et que même si c'est un jeu multijoueur contre l'environnement, voilà, tu penses que t'as fait le tour et que tu n'y retoucheras plus jamais, quoi.
Alors, n'y retoucher plus jamais, non, parce que pour le coup, maintenant, moi, je suis arrivé à la phase où il y a de l'histoire, hein.
Ah, okay.
Et l'histoire est super cool. Attention, hein, parce que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, parce que je vous ai dit que l'histoire ne démarre qu'après 30 heures. Mais putain, mais l'histoire, elle est géniale! Elle est géniale, l'histoire, les personnages, ils sont trop cool, il y a de la mise en scène. Il y a un des fils de pute les plus géniaux en ennemis et tout. Enfin, c'est, j'adore. Mais, bon, déjà, rien que pour ça, j'y retournerai. Ouais. Alors, bien sûr, évidemment, je vais pas m'éterniser dessus. Pourquoi? Parce que, bah, j'ai pas le temps, en fait. C'est con à dire, hein, mais j'ai plein de jeux auxquels jouer, et Warframe, tu me prends trop de temps, là. Donc, je vais devoir te sacrifier, désolé. Mais j'y aurais joué plus de 200 heures, et franchement, 200 heures, pour quelqu'un comme moi, c'est beaucoup, hein.
Ouais.
C'est énorme, même. Alors, je sais que les vétérans de Warframe, ils vont voir 200 heures, ils font faire... Vas-y. Moi, je suis à 3000 heures de jeu, ouais, là.
Mais comme toujours.
C'est quoi, tes 200 heures, là?
Et là, les mecs qui ont joué à World of Warcraft au début, ils rigolent sur les mecs qui jouent à Warframe depuis 3000 heures.
Voilà. Mais pour moi, c'est colossal, 200 heures. Parce que moi, je suis un mec, il faut bien réaliser une chose, je joue à plein de jeux tout le temps, en fait. Et du coup, si je consacre autant de temps à Warframe, c'est autant de temps que je ne consacre pas à d'autres jeux. Et il faut bien voir que si le jeu arrive à me faire faire ça, c'est quand même qu'il doit être très bon. Et pourquoi j'y ai joué autant de temps? Ben, c'est ce que je vous dis depuis le début, en fait. Parce que au-delà de tout l'aspect hyper touffu du jeu, de l'aspect collectionniste, de l'aspect fashion, etc., pour moi, la réussite fondamentale de Warframe, et c'est sur ça que je voulais me concentrer, et s'il y avait une seule chose que je voulais communiquer en parlant de ce jeu, c'est le fait que, ben, ouais, le gameplay de base, il tourne très bien, il est super plaisant, et maintenant, en plus, que je suis arrivé à un niveau où là, je vois l'intérêt de faire des builds, parce qu'il y a des ennemis suffisamment... avec suffisamment de répondants en face pour que je me donne la peine de leur péter le cul, là, je me dis, ouais, le jeu, il est super plaisant, il y a une prise en main qui est excellente, et voilà. Fondamentalement, tu vois, pour faire un jeu où on passe des heures et des heures et des heures, il n'y a pas besoin de faire des modèles économiques foireux, il n'y a pas besoin de faire du contenu superflu, il y a juste besoin d'avoir un jeu avec un gameplay qui tourne et qui est plaisant. Voilà.
Bon, bah, je pense que ça sera le mot de la fin sur Warframe.
Oui, pour finir, on peut quand même dire que le jeu est gratuit, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas une direction artistique, on va dire, intéressante, et que le jeu est quand même assez joli pour un jeu de ce calibre-là, quand même.
Bah, surtout pour un jeu avec du procédural, des trucs comme ça, c'est vraiment un jeu qui est super
beau. Oui, parce que, enfin, à tort, quand on entend souvent ce genre de truc, on se dit, ouais, c'est un jeu gratuit, donc techniquement, ça doit pas être ouf.
C'est ça. Mais non, franchement, c'est un super jeu. Si vous aimez les jeux coop et jouer avec des gens, alors par contre, je vous recommande une dernière recommandation avant de partir. Le tout début du jeu, jouez seul. Pourquoi? Parce que ça va vous donner le temps de la prise en main et vous serez moins déstabilisé quand vous jouerez avec des gens qui finissent le niveau en 3 coups de cuillère à peau.
Ouais.
Parce que vous allez souvent tomber, même sur des missions en début de jeu, sur des joueurs à haut niveau qui sont en train de farmer, en fait, tout simplement. Et eux, ils ont pas le time, tu vois. Mais ils ont d'autant pas le time que l'un des intérêts du jeu, c'est de finir les niveaux le plus rapidement, parce que,
ouais,
comme l'un des plaisirs du jeu, c'est de maîtriser les déplacements, le parcours, donc ta frame, bah, du coup, t'as envie de finir le jeu super vite, quoi. Mmh. Tu vois. Si au début du jeu, tu rentres direct dans le multi, tu vas peut-être un peu te dégoûter toi-même, ouais, parce que tu vas voir les mecs qui tracent et toi, tu seras là, laissé derrière, tout seul.
Ouais.
Donc, jouez-y avec des potes ou jouez-y tout seul au début. Et puis, quand vous vous sentez prêt, allez-y, jouez-y à plusieurs, parce que c'est un vrai plaisir.
Une fois que vous serez à l'aise, quoi.
Voilà. Et encore une fois, je me suis pas étendu sur tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu, parce qu'il faudrait faire un podcast de 4 heures. Mais c'est un jeu où il y a plein de choses à faire et... moi, personnellement, j'ai dépensé 70 balles dans le jeu et j'en ai eu pour mon argent.
Et voilà. Aussi, peut-être que tu veux laisser tout simplement le plaisir de la découverte aux gens qui veulent jouer au jeu.
Voilà, c'est ça. Et encore une fois, j'en ai pas beaucoup parlé, mais parce que pour moi, c'est pas un truc où je veux insister quand ça démarre au bout de 30 heures, mais l'histoire, l'univers, c'est super cool. Allez-y. Okay. Ciao les gens.
Eh bien, bonne semaine à tous, salut.
Au revoir et merci pour l'écoute du podcast.